BFM Business, 500 millions d'Européens, avec Euranet Plus, Yann Anthony Nogues.
Bonjour et bienvenue à Bruxelles pour ce nouveau numéro de 500 millions d'Européens. Alors chaque semaine, on pénètre dans les coulisses de l'Europe, dans les coulisses de Bruxelles. Et cette fois-ci, on s'est dit que ce serait intéressant de se regarder le nombril, mais avec un regard extérieur, malgré tout connaisseur. Bonjour David Bavrez. Bonjour. Alors, vous avez vécu à Berlin, Londres, New York. Actuellement, vous êtes à Hong Kong, de passage à Bruxelles.
Oui.
D'accord, très bien. Donc, en tout cas, vous connaissez bien l'Europe, vous connaissez bien la Chine. Vous allez pouvoir nous dire ce que, par exemple, les Chinois pensent des Européens. Vous êtes un business angel, ou plutôt un investisseur, et vous êtes un observateur de ce que vous appelez le nouveau monde à l'envers qui s'annonce.
Oui, c'est un monde qui fait x10. C'est un monde qui passe de 700 millions de privilégiés, d'Européens et d'Américains au XXe siècle, à 7 milliards de gens sur la planète au XXIe. C'est ça ce que les Chinois ont compris.
D'accord, et vous êtes auteur, et peut-être que les Européens l'ont compris, non? Non, les Européens, ça, ils ne l'ont pas compris du tout?
Ils ne l'ont pas complètement compris quand on voit leur charge sociale.
D'accord. J'y reviendrai. On va y revenir. Et vous êtes l'auteur de Génération Tonique, l'Occident est complètement à l'ouest chez Plomb. Bonjour Gabriel Grésillon.
Bonjour.
Alors vous êtes un nouveau collègue, un confrère ici à Bruxelles, correspondant des Échos. Vous avez remplacé Anne Bauer, fidèle de cette émission ces dernières années. Vous étiez jusqu'il y a un mois correspondant à Pékin et vous êtes l'auteur de Chine, le grand bond dans le brouillard. C'est pas tout à fait le même son de cloche que David Bavrez. Pour vous, les Chinois, c'est le grand bond dans le brouillard?
Je pense qu'on va quand même trouver un terrain d'entente avec David Bavrez, mais effectivement, moi, je suis un peu dubitatif sur la suite de la trajectoire de ce pays, et je pense qu'il va rencontrer des difficultés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas un nouveau monde qui s'annonce, mais simplement, il y a un certain nombre d'écueils qu'il va falloir affronter, quoi. Et ça pose des questions politiques, ça pose des questions très lourdes.
Voilà. Sur ce, Gabriel, pour être allé quelques fois en Chine, je connais beaucoup moins bien ce pays que vous, j'ai pas souvent vu le soleil.
Ben voilà, ne serait-ce que la question environnementale dont tout le monde est conscient désormais. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est que derrière ces questions, il y a des questions vraiment politiques qui sont soulevées. S'il y a un problème environnemental, c'est parce qu'il y a un problème de gouvernance en Chine, probablement majeur. Voilà.
On va y revenir. Bonjour Charles de Marcilly.
Bonjour Yann Anthony.
Fidèle de l'émission, directeur du bureau de la Fondation Robert Schuman ici à Bruxelles. Donc, vous l'avez compris, on va parler de Chine, on va parler d'Europe, évidemment. La Chine, c'est une priorité ici à Bruxelles, selon vous?
C'est un acteur peut-être incontournable, mais j'ai pas le sentiment que c'est l'acteur essentiel. Mmh. Et donc, on voit qu'on a envie de mieux le connaître, on les accueille avec bienveillance, il y a un facteur économique certain. Après, j'ai pas le sentiment qu'on ait une politique qui soit vraiment aussi précise que ça.
D'accord. Que pèse l'Europe aux yeux des Chinois? C'est une question que nous allons traiter cette semaine. La crise de 2008, la Chine est-elle la grande gagnante de cette crise? Et la question implicite, c'est l'Europe est-elle la grande perdante de cette crise? Et puis l'Europe doit-elle reconnaître à la Chine le statut d'économie de marché? Voilà le programme de cette nouvelle édition de 500 millions d'Européens pour réagir. Hashtag 500ME. Alors, la première question de notre débat aujourd'hui, que pèse l'Europe aux yeux des Chinois? D'abord, messieurs, quelques chiffres en matière de PIB. L'Union européenne, c'est 16 000 milliards de dollars. Ça, ce sont les 28 pays réunis. La Chine, c'est 6 000 milliards de dollars. Ça remet les choses à leur place quand même. Je veux dire, les Chinois, on dit que c'est la grande économie, mais quand on est nous tous ensemble, tous les petits bras européens, on est quand même plus lourd. Et puis l'Union européenne est le premier partenaire commercial de la Chine. La Chine est le deuxième partenaire commercial de l'Union européenne. David Bavrez, que pèse l'Europe aux yeux des Chinois? A priori, on devrait peser lourd.
On devrait. Et pourtant, quand vous êtes à Hong Kong, on ne vous parle jamais de l'Europe. Pour les Chinois, le 21e siècle, c'est un combat entre la Chine et les États-Unis. La Chine doit redevenir première puissance mondiale en dépassant les États-Unis. Et je pense personnellement que c'est complètement faux, puisque, et c'est le grand challenge de l'Europe dans les années futures, la principale question de ce 21e siècle, c'est quel mode de vie pour 7 milliards de gens sur la planète plutôt que ces 700 millions de privilégiés américains et européens du 20e siècle? Et la réponse, elle est en partie chez nous, parce que c'est nous qui avons le mode de vie que tout le monde nous envie. C'est nous qui avons un ciel bleu, pas celui que Gabriel a connu à Pékin, ouais. Et c'est nous qui n'avons pas 70% de la population obèse ou super obèse comme aux États-Unis. Donc nous partons perdants, Mais c'est absolument génial, parce qu'en général, c'est comme ça qu'on gagne les combats. Mais il va falloir qu'on se réforme.
D'accord, il faut qu'on se relève. Gabriel Grésillon, que pèse l'Europe aux yeux des Chinois?
Mais je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que au plan économique, il y a une fascination pour les États-Unis. Quand on regarde où les Chinois veulent émigrer, c'est les États-Unis ou éventuellement d'autres pays anglo-saxons, mais enfin, c'est d'abord et avant tout les États-Unis. Et en fait, il y a quand même, dans le cas de l'Europe, un capital de sympathie qui est énorme, mais qui est un peu endormi. C'est un peu un cliché, mais je veux dire, c'est la Dolce Vita, c'est l'art de vivre. Donc, il y a une sympathie vis-à-vis de l'Europe, mais par contre, on la néglige un petit peu au plan économique. À l'exception, peut-être, quand même, de ce qu'a pu être l'Allemagne. Je dis ce qu'a pu être parce que j'ignore les effets dévastateurs potentiels de l'affaire Volkswagen, mais jusqu'à présent, l'Allemagne, c'était ça, c'est la qualité. Mais pour le reste, l'Europe, c'était relativement négligeable. On parle de l'homme de la rue, hein, on parle du chinois de la rue, parce que, évidemment, dans les milieux économiques, il y a des gens un peu plus au courant des savoir-faire européens, etc.
C'est vrai qu'ils aiment bien les Volkswagen en Chine.
Ah, c'était une marque qui cartonne. Je ne suis pas sûr que... Toutes.
C'était 50% des profits mondiaux de Volkswagen sont faits en Chine.
C'était même exaspérant quand on parlait à des gens de Volkswagen en Chine parce qu'ils étaient relativement condescendants vis-à-vis des constructeurs des autres pays européens.
Charles de Marcy, vous qui êtes le local de l'étape, la Chine, premier pays hors Union européenne à contribuer au fameux plan Juncker, ce plan exceptionnel de 315 milliards d'euros censé relancer la croissance en Europe. Eh bien, il y a le vice-président, un des vice-présidents de la Commission européenne qui fait une sorte de road trip à travers le monde et qui dit à tout le monde, venez investir en Europe, c'est le moment d'investir en Europe. Et hop, les Chinois, eux, le font.
Ils le font, ils se sont engagés entre 6 et 10 milliards d'euros, ce qui serait la plus grande contribution, parce que jusqu'à maintenant, il n'y a que 9 États membres, donc membres de l'Union européenne, qui contribuent. Donc, ce n'est pas un grand succès en dehors des frontières de l'Union européenne. Et là, je pense que c'est plus un message politique, diplomatique, qu'une vraie volonté d'investissement sur le très long terme, puisque là, ils fonctionnent plutôt au cas par cas, et ils n'ont pas besoin de l'Union européenne en tant que telle. Ils le font déjà dans les pays individuellement.
David Bavrez, quand on pose cette question, que pèse l'Europe aux yeux des Chinois? Ce à quoi je pense, c'est que pèse Bruxelles aux yeux des Chinois? Est-ce que les Chinois, quand ils pensent Europe, ils pensent Londres, Berlin, Paris, ou ils pensent un peu Bruxelles?
Non, ils pensent deux pays. Ils pensent l'Allemagne et la Suisse. Les deux seuls pays qu'on...
Je pensais que vous alliez dire l'Allemagne et la France.
L'Allemagne et la Suisse. C'est l'Allemagne et la Suisse sont les deux seuls pays qui ont une industrie mondialement leader. Ce sont les deux seuls pays qui n'ont jamais dévalué. Et ils voient quatre pays, le Royaume-Uni, la France, l'Italie et l'Espagne, qui ont dévalué de 20% tous les 10 ans et qui ont très largement perdu leur industrie.
Mais en termes d'interlocuteurs, c'est-à-dire, est-ce que pour eux, à votre avis, Bruxelles est un interlocuteur?
L'interlocuteur, c'est la question que se posait déjà Kissinger dans les années 70. Donnez-moi le numéro de téléphone et il n'y en a pas. Donc, il divise pour mieux régner, il divise l'ennemi en ayant des négociations qui sont pays par pays plutôt que de négocier, comme vous l'avez dit, avec un groupe de 400 millions de personnes qui, on y reviendra peut-être sur les négociations commerciales.
Oui, en l'occurrence, c'est Bruxelles qui a le mandat de négociation et qui négocie à l'OMC aussi pour l'Europe. Donc, a priori, les Chinois qui sont obsédés par l'OMC devraient quand même voir Bruxelles comme un interlocuteur.
Absolument. Et puis vous allez sur le sujet de l'énergie solaire, et ben vous voyez qu'ils négocient pays par pays pour défoncer un pays après l'autre.
Ah, justement.
Donc c'est ça la ruse des Chinois, c'est que vous avez quelque chose sur un papier, mais vous avez une technique de négociation qui est un peu différente.
Justement, dans votre ouvrage, David Bavrez, Génération Tonique, alors pourquoi Génération Tonique? C'est parce que vous vous adressez aux jeunes de 20 à 30 ans pour qu'ils changent d'approche par rapport à la vie et qu'ils aient un petit peu de tonus, c'est ça?
C'est tous ceux qui ont 20 ans dans leur tête et qui comprennent que 2008 est une rupture générationnelle et que le monde, non pas s'écroule comme on le croit très souvent en France, mais le monde tourne. D'accord. Et qu'il y a des opportunités extraordinaires pour qui comprend que les tendances des 10 prochaines années sont l'inverse des 10 dernières.
Très
bien.
C'est
ça la génération technique.
En tout cas, là, vous parliez d'énergie et pour vous, il y a différentes révolutions, notamment la révolution énergétique. Et là, en la matière, la politique de l'Europe est funeste.
Absolument. Vous ne pouvez plus avoir d'industrie. Vous n'avez plus une usine consommatrice d'électricité qui se construise en Europe. Vous n'avez plus une usine de chimie qui se construit en Europe. Nous avons un coût de l'énergie qui est à peu près le double de celui des États-Unis. Donc malheureusement, la transition énergétique est un désastre en Europe. Ce qui nous sauve, c'est que l'énergie dans les 10 à 20 prochaines années va être très très bon marché. Le pétrole à 40 dollars, je vous rappelle qu'en 2008 il était à 200. Ce pétrole à 40 dollars, il va durer très longtemps. Et ça, c'est une chance extraordinaire pour nous. Et là, quand je parle, c'est tous les pays développés, consommateurs d'énergie, mais également la Chine. Donc on dit qui est le grand vainqueur des changements depuis 2008. Ben, il est évident que le pétrole pas cher, le premier bénéficiaire, c'est la Chine.
Et l'autre révolution à côté de laquelle l'Europe est passée, selon vous, c'est celle des technologies de l'information. L'Europe qui a commis une erreur stratégique en fragmentant son marché intérieur, contrairement à ce qu'ont pu faire les Américains avec Facebook, Amazon, Google.
Oui, alors que les Chinois, de manière très intelligente, ont protégé leur marché et aujourd'hui, ils dépassent les Américains. Aujourd'hui, WeChat, c'est quelque chose qu'on ne saisit en général pas en Europe. Si vous prenez la plateforme WeChat de messages instantanés, sa monétisation est 7 fois celle de WhatsApp aux États-Unis. Donc on croit que les États-Unis gagnent la révolution digitale, ils le font en partie, mais sur toute la révolution digitale téléphone portable, c'est la Chine qui gagne. Il s'est vendu 500 millions de smartphones en Chine en 2 ans. C'est 2 fois le marché américain.
Gabriel Grésillon, donc vous étiez, avant d'arriver ici à Bruxelles, il y a un mois, vous étiez à Pékin. On parlait un petit peu d'Europe. C'était dans vos préoccupations ou bien vous, quand vous écriviez vos papiers depuis Pékin sur l'économie chinoise, c'était une économie vraiment pas repliée sur elle-même, mais focalisée sur les États-Unis et l'Europe ne figurant absolument pas sur les radars.
Mais je crois que malheureusement, on parlait assez peu d'Europe en tant qu'institution. On parlait des pays européens. Ils sont très forts pour donner de la face, comme on dit. Donc quand il y a un dirigeant européen important qui vient, en particulier un Allemand ou un Français ou un Britannique, on le reçoit en grande pompe, on l'accueille au Palais du Peuple, on fait tout ce qu'il faut pour qu'il soit flatté. Mais par contre, c'est vrai que vis-à-vis des institutions européennes, j'ai l'impression que c'était relativement négligent. Ça ne veut pas dire que... dans les négociations, par exemple, commerciales, ou quand il s'agit de faire avancer des négociations avec l'Europe sur une libéralisation des flux de financiers, par exemple. Là, on va traiter avec l'Europe, parce qu'on sait que, pour des raisons, entre guillemets, idéologiques, les institutions bruxelloises sont assez motivées pour pousser un agenda un peu libéral, etc. Donc là, on va prendre le bon interlocuteur. Mais globalement, j'ai pas l'impression que l'institution européenne soit immensément respectée par le Parti communiste
chinois. En Chine non plus. Ouais. Charles ?
Sur l'énergie ou sur le numérique, la différence entre les trois zones que vous avez citées, c'est que vous avez à chaque fois un continent, sauf que dans deux cas, c'est un État, un continent, et nous, c'est 28 et un continent. Et donc, on est sur cette fragmentation. Et on avait publié en 2011 un rapport à la Fondation Schuman sur la perception de hauts dirigeants indiens et chinois, donc je mets de côté les Indiens, et ils trouvaient justement qu'on était un processus inachevé. Et sur ce type de critères, par exemple, on est totalement inachevé, mais la volonté vient pas de Bruxelles. Et je crois que les Chinois l'ont compris. La volonté doit être poussée au niveau des États, avec une impulsion aussi qui se fait ici au niveau commun. Mais c'est pas toujours le cas. Et donc la conclusion, c'est que les Chinois, ils font leur marché. Sur les questions d'investissement, ils viennent ici. Et puis quand c'est sur les panneaux solaires, l'énergie ou le numérique, ils le font au niveau national.
La Chine est-elle le grand gagnant de la crise de 2008 ? On y revient juste après une courte page publicitaire avec David Bavrez, Gabriel Grésillon et Charles de Marcilly. À tout de suite.
BFM Business, 500 millions d'Européens, l'émission qui va voir ailleurs. BFM Business, avec 500 millions d'Européens, pénétrez dans les coulisses de l'Europe.
Merci de nous retrouver à Bruxelles pour ce deuxième quart d'heure de 500 millions d'Européens. Aujourd'hui, nous parlons de l'Europe vue de l'extérieur, vue de Chine, avec deux spécialistes de la Chine, David Bavrez, auteur de Génération Tonique, l'Occident complètement à l'Ouest, et Gabriel Grésillon, Chine, le grand bond dans le brouillard, ainsi que Charles de Marcilly de la Fondation Robert Schuman. Alors juste avant la pause, on parlait de ce que pèse, de ce que vaut l'Europe aux yeux des Chinois. A priori, pas grand-chose pour se rassurer dans cette partie-là dès l'émission. Maintenant, autre question, la crise de 2008, la Chine est-elle la grande gagnante? A priori, on ne va pas se rassurer là non plus, parce que ça voudrait dire peut-être que l'Europe est la grande perdante. Équation d'Angela Merkel. On va parler de l'Europe. Il va falloir travailler très dur. C'est vous qui revenez là-dessus, David Bavrez. L'Europe, c'est 7% de la population mondiale, c'est 25% du PIB mondial, c'est 50% des dépenses sociales. Et vous appliquez cette équation à la France. La France, c'est 1% de la population mondiale, c'est 4% du PIB mondial et c'est 15% des dépenses sociales. On a un problème.
Il faut regarder en dynamique. Hein. Vous prenez la période 2008-2013, 5 années. Le PNB européen est stable. On est les perdants, mais le PNB américain est stable. Ça, on l'a moins en tête. Donc, les Américains bombent le torse, mais ils ont fait comme nous. Le PNB chinois fait plus 50%. La dernière fois que c'est arrivé, c'est 1914-1918. L'Europe est stable. Les États-Unis font plus 50%. C'est l'époque où le monde a basculé de l'Europe aux États-Unis. Et comme il y a une guerre mondiale, on s'en est rendu compte. Là, le monde bascule partiellement à la Chine. Il n'y a pas eu de guerre, on ne s'en rend pas compte.
Donc, la conclusion de tout ça,
La conclusion, c'est que vous allez voir que quand il y a une conférence climatique à Paris en fin d'année, en 2009, la Chine dit à Copenhague, c'est vraiment pas le sujet parce qu'il faut qu'on sauve le monde. Il ne se passe rien. Et que vous allez voir qu'en décembre, ils vont dire c'est notre problème numéro un, donc c'est le problème numéro un mondial, et donc on s'y attaque très très sérieusement.
Donc non seulement donc, c'est la Chine qui économiquement, ils ont pied au plancher, mais en plus, ils assument un leadership.
Absolument.
Donc ça, c'est la conclusion. Gabriel Grésillon, vous êtes d'accord avec ça? Les Chinois, maintenant, assument un leadership mondial?
Ils y viennent peu à peu, mais par contre, si je peux me permettre, moi je pense qu'il faut prendre avec beaucoup de prudence la trajectoire de la Chine depuis 2008. On peut pas nier qu'elle est crue à toute vitesse, et on ne peut pas nier que ce soit une transition majeure, et on peut pas nier que le monde de demain, il faudra tenir compte beaucoup plus de la Chine et globalement des émergents. Par contre, il faut quand même avoir à l'esprit que cet énorme accroissement de richesse de la Chine depuis 2008, il s'est fait de façon en bonne partie malsaine, avec ce qu'on appelle du surinvestissement, c'est-à-dire aujourd'hui de l'endettement. Et quand vous disiez ça il y a un an ou deux, on vous disait que vous exagériez, et aujourd'hui ça devient un petit peu patent parce que le système financier chinois, il commence à craquer. Il craque pas pour rien, il craque parce qu'il y a eu une bulle. Il y a eu une bulle d'investissement dans l'immobilier, il y a eu des bulles, il y a eu du surinvestissement dans l'industrie, il y a des industries qui ont tourné à vide, qui produisaient pour aucune raison. Il y a donc un système économique qui est fondamentalement déséquilibré, il n'y a pas de consommation. Donc, je veux dire, arrêtons de croire que...
Gabriel Grésillon, vous dites en gros, en substance dans votre livre, c'est la Chine, la croissance, mais à quel prix? J'ai envie de vous répondre, en Europe, il n'y a pas de croissance, mais on en paie le prix aussi.
Mais bien entendu, mais je suis pas en train de dire la Chine a tout faux et l'Europe a raison sur tous les points. Simplement, il faut. Moi, je trouve que sur le sujet chinois, c'est par ça que j'ouvre mon bouquin. Je trouve qu'on manque de mesures. C'est-à-dire, on est passé d'un extrême à l'autre. Pendant des années, on a méprisé la Chine au motif que c'était un régime dictatorial. Et puis après, du jour au lendemain, après la crise de 2008, on est devenu complètement idolâtre d'un pays qui avait soi-disant tout compris à la croissance économique. C'est pas vrai. Ils sont dans un stade de développement beaucoup moins avancé, pendant lequel c'est relativement simple de produire et de croître. Et ils sont arrivés à la limite. Et vraiment à la fin de cette trajectoire, donc ils rentrent dans quelque chose de beaucoup plus complexe, ce qui n'enlève rien à la complexité de ce que nous, pays développés, vieillissants, on doit gérer. Voilà.
Charles, vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, la Chine assure sa part de leadership dans le monde et que l'Europe ne le fait pas. C'est ce que disait clairement David Bavrez, parce qu'il y a eu un grand sommet à Copenhague en Europe. L'Europe a fait pchit, alors que l'Europe voulait prendre le leadership mondial en matière de lutte contre le réchauffement climatique.
Oui, mais on n'est pas non plus exemple de tout reproche sur cette question. On n'est pas exemplaire. On voudrait être exemplaire et donner des leçons, mais on voit sur notre capacité à atteindre les objectifs qu'on le fait plutôt en rame.
On va parler de Volkswagen.
Ouais, par exemple, mais on rame avec des fourchettes. Donc c'est pas toujours. On avance un peu, mais pas aussi vite qu'on le voudrait. Et pour rebondir sur ce que vous disiez, je trouve aussi moi qu'on n'a pas le sentiment en fait que la Chine encore est si forte. C'est fort, mais finalement on connaît assez peu. Et quand je vois l'accord, par exemple Transpacifique, qui a été signé donc avec les États-Unis et d'autres partenaires le 5 octobre, très clairement, quand Obama, le lendemain, fait sa conférence de presse, il dit que c'est aussi pour aller face ou contre les normes qui pourraient être proposées ou imposées par la Chine. Je n'ai pas le sentiment qu'au niveau européen, on est déjà dans cette dialectique et dans cette démarche d'avoir une force de position. Donc, une autre question, c'est est-ce que le prochain lien, ce ne serait pas justement sur ces trois blocs, mais de trouver des raccourcis, puisque États-Unis, Europe ne marche pas si bien que ça, ou en tout cas, c'est assez lent, on a déjà parlé ici, et donc, est-ce qu'il ne faudrait pas accélérer aussi sur Union européenne et Chine?
David Bavrez, est-ce que ce que vient de dire Charles de Marcilly, ça me fait penser au TTIP, le TAFTA, l'accord de libre-échange en négociation entre les États-Unis et l'Europe. Ce qu'on entend ici dans les couloirs, c'est, attendez, il nous faut cet accord entre les États-Unis et l'Europe pour faire de loin le plus grand marché au monde. Sinon, ce sont les Chinois qui vont nous imposer nos normes.
Non, mais
d'accord avec ça ?
Depuis 2008, la Chine a représenté entre un tiers et 50% de la demande mondiale. Donc, ce qui a changé depuis 2008, c'est la dynamique. Les cycles économiques commencent désormais en Chine. Le monde en 2008-2009 a été sauvé par la Chine. Ce n'est pas le G20 de Londres d'avril 2009 qui nous a sauvés, c'est le plan de relance de 4 trillions de yuan en novembre 2008 en Chine. Ce qui s'est passé cet été, le fait que la Chine retire la prise sur le quantitative easing en disant on ne fera plus qu'un qualitative easing, c'est la fin de la croissance mondiale. Donc le ralentissement que vous voyez en Chine pour lequel tout le monde panique aujourd'hui, vous n'avez pas vraiment de raison de paniquer parce que c'est un pays qui continue à croître de manière certes plus modeste mais toujours. Par contre, là où vous pouvez, si vous êtes nerveux et si vous êtes paniqué, ben je vous propose de regarder l'Europe et les États-Unis dans les 12-18 prochains mois. Parce que ce qui s'est passé en Chine va se passer en Europe et aux États-Unis dans les 12 à 18 prochains mois. Et tout ça, ça vient. Les cycles économiques, il y a 20 ans, commençaient toujours à San Francisco, aller à New York, aller à Londres, Paris, puis l'Asie. 2008, tout s'inverse. Il faut regarder ce qui se passe en Chine parce que ça vous dit ce qui va se passer en Europe et aux États-Unis. 6 à 12 mois
plus tard. Donc la Chine, c'est plus l'usine du monde maintenant, c'est quoi? C'est le magasin du monde?
C'est le laboratoire du monde. Ouais. C'est 20% des dépenses de recherche et développement mondial. Mmh. C'est supérieur à leur poids du PNB dans le monde.
Gabriel Grésillon.
Ouais, c'est toujours pareil, sur la R&D, la Chine fait beaucoup de bruit, et puis quand on parle aux industriels, ils vous disent, bah, y a très peu de R et il y a beaucoup de D. C'est-à-dire qu'en fait, on localise pas tant que ça de recherche fondamentale sur le sol chinois. Par contre, on adapte des produits, etc. Enfin, je veux dire, il faut être nuancé sur tous ces sujets-là.
Qui se souvient...
Les Chinois sont incapables de dire R, hein. c'est peut-être pour ça, pardon, David Davis.
Et qui se souvient de qui a inventé le moteur de l'automobile? Personne. Ouais. Qui se souvient de qui a rendu ce produit mass market? C'est M. Ford. Mm-hmm. Et ben les Chinois, c'est M. Ford, c'est pas l'inventeur du moteur. C'est M. Ford qui a gagné.
C'est la manière dont les Chinois ont gagné. Produits sur lesquels c'est tangible. Je veux dire, voilà, on n'est pas encore submergé par des marques chinoises aujourd'hui. Mais ça vient. Je suis pas en train de dire que ça n'arrivera pas. Je dis juste que les choses ne sont pas aussi massives et aussi radicales. Le changement
se fait. Le marché des drones, voilà. 50% du marché mondial. Les industries de demain, ne sous-estimez jamais le poids de la Chine.
Ok. Et juste pour répondre du coup à la question, je pense que vous avez implicitement répondu, ça veut dire qu'on a besoin de cet accord de libre-échange entre les États-Unis et l'Europe, ou en fait vous êtes en train de dire que ça, de toute façon ça ne va rien changer, pour pouvoir continuer nous-mêmes à définir nos normes?
Les normes seront définies par les consommateurs. Si 90% de la croissance des classes moyennes dans les 20 prochaines années viennent d'Asie, les normes seront déterminées par les Asiatiques.
L'Europe doit-elle reconnaître à la Chine le statut d'économie de marché? C'est un point en discussion, ça va être réexaminé, ce point-là, dans les prochains mois, en 2016. C'est la question qui agite les Chinois quand ils pensent aux Européens. Ça va passer à l'OMC. On poursuit la discussion avec David Bavrez, Gabriel Grésillon et Charles de Marcilly, juste après le journal. À tout de suite.
BFM Business, 500 millions d'Européens, l'émission qui va voir ailleurs. BFM Business, 500 millions d'Européens, avec Euranet Plus, Yann Anthony Noguès.
Merci de nous retrouver pour cette deuxième demi-heure de 500 millions d'Européens, toujours ici à Bruxelles, en compagnie de David Bavrez, auteur de Génération Tonique chez Plon. L'Occident est complètement à l'ouest, de Gabriel Grésillon, auteur de Chine, le grand bond dans le brouillard chez Stock. Et Charles de Marcilly, de la Fondation Robert Schuman, pas encore de livre?
Non, mais je deviens critique littéraire.
Critique littéraire, lequel vous préférez? Le petit livre rouge, de David Bavrez sur la Chine, ou bien le grand livre blanc de Gabriel Grésillon?
Blanc, rouge, le
Il y en a un qui est plus lourd que l'autre, il y en a un qui a plus bossé que l'autre.
Il y en a un qui a plus travaillé quand même.
Ouais, mais ça manque de bleu.
Je connais la technique.
La Fondation Schumann, c'est
vous. Il peut être plus gros, mais il y a plus de graphiques.
Très bien. Non, c'est vous qui ferez le bleu autour de ce plateau. L'Europe doit-elle reconnaître à la Chine le statut d'économie de marché? Alors, en fait, à son entrée à l'OMC, c'était il y a un peu moins de 15 ans. En 2001, la Chine a été enregistrée comme une économie non marchande. Et cette question doit être réexaminée là, dans quelques mois, en 2016. Et Pékin voudrait recevoir le statut d'économie de marché pour des questions pratiques et également des questions d'image. On va y revenir. Donc l'Europe doit-elle, et c'est ça toute la question, les 28 doivent se mettre d'accord pour savoir s'ils ont envie d'octroyer ce statut là à Pékin. On y revient avec nos invités. Voilà le programme de la deuxième demi-heure de 500 millions d'Européens pour réagir. Hashtag ça sent émeut. Alors l'Europe doit-elle reconnaître à la Chine le statut d'économie de marché ? Gabriel Grésillon, vous êtes correspondant des Échos depuis un mois ici à Bruxelles. Auparavant, vous étiez à Pékin. En clair, avec ce statut de passer d'économie non marchande à économie de marché, que peut y gagner la Chine, à votre avis ?
De diminuer totalement les droits de douane qu'on lui applique sur un certain nombre de produits. Donc en fait, il y a un vrai enjeu commercial derrière cette question. Moi, je trouve que pour répondre à cette question, il faut se poser deux questions. D'accord. La première, c'est la Chine est-elle ou non une économie de marché ? Et puis ensuite, et à la limite, c'est presque pas corrélé à la réponse à la première question. Ensuite, et qu'est-ce qu'on veut en faire ? Est-ce qu'on veut lui accorder ou non ?
L'intérêt de Pékin, là, c'est d'avoir des amendes moins lourdes, parce qu'avec ce statut d'économie non marchande, aujourd'hui, quand il y a une forme de dumping, quand elle aide ces sociétés à exporter, du coup, elle est passible d'amendes très lourdes. Alors, pour répondre aux deux questions posées par Gabriel Grésillon, à présent, moi, je me tourne, c'est pas moi qui vais y répondre, moi, je me tourne vers David Bavrez. Bon, clairement, la Chine, c'est à la fois un pays développé, c'est un pays émergent et c'est un pays du tiers-monde. Donc, est-ce que la Chine, aujourd'hui, mérite un statut d'économie de marché ?
Ben, il faut négocier. Donc, je vais vous faire une réponse de Normand, c'est à la fois oui et non. Ce qu'il faut, c'est obtenir d'elle ce qu'elle obtient de nous. Et ça, il faut s'inspirer des États-Unis, parce que s'il y a un pays qui sait faire et négocier, ce sont clairement les États-Unis vis-à-vis du reste du monde. Donc, moi, je dis aux Chinois, si vous voulez quelque chose, il faut que vous donniez quelque chose. Donc, vous ne pouvez pas permettre, par exemple, de pénétrer tout un tas d'industries en Chine et d'interdire à nos sociétés informatiques, c'est l'un des axes fondamentaux de développement futur de la Chine, de ne pas avoir accès au cloud en Chine. Je dis, vous ne pouvez pas racheter Pirelli, 7 milliards d'euros sur la table au mois de mai, prendre 100% du contrôle d'un des 20 joyaux de multinationales italiennes, et que nous ne puissions pas aller acheter des sociétés chez vous, en prenant le contrôle. Donc, il faut être sérieux, il faut être des businessmen, et il faut dire à la Chine, si vous voulez ce statut, eh ben, comment ouvrez-vous votre marché ? Pourquoi le secteur des banques nous est fermé ? Pourquoi le secteur des télécoms nous est fermé ? Parce que, je regrette, mais ça, c'est pas une économie de marché.
Donc pour vous, il faut la réciprocité ?
Absolument. Mais il faut faire très attention, parce qu'ils sont bien meilleurs négociateurs que nous. Donc, on va se faire avoir.
Charles de Marcy, aujourd'hui, donc, Gabriel Grésillon le disait, hein, la Chine qui fait l'objet de restrictions d'exportation, de taxes anti-dumping. Mais ça, c'était une façon, donc, au départ, en 2001, quand la Chine est rentrée dans l'OMC, pour l'Europe de se protéger un petit peu. Parce que nos amis, les Chinois, ils ont des bas salaires, ils ont moins de charges sociales, ils ont moins de contraintes administratives. Il faut quand même qu'on ait les moyens de se protéger face à ça.
Mais là, il n'y a pas de réciprocité. C'est-à-dire que très clairement, on l'a vu avec le dossier, par exemple, quand les Chinois voulaient racheter une partie du port du Pirée. Tout de suite, c'était, mais c'est pas du tout. Déjà, la Grèce, c'est compliqué économiquement, mais si en plus, on donne aux Chinois qui, justement, ont des conditions de travail qui sont différentes, les salaires sont plus bas, les normes sont pas les mêmes, on est en train de vendre les bijoux de l'ensemble de la famille. Et on voit que, très clairement, et je pense que sur beaucoup d'États, je ne suis pas convaincu que la vision, en fait, de la Chine soit si positive que ça. On a encore cette vision de produits plutôt de mauvaise facture, de produits qui sont pas très chers, mais d'une qualité très, très faible, et qui, justement, ne répond pas à toutes ces exigences, pardon, sociales ou environnementales. Et donc, je pense que là, les négociations vont être très dures, mais pas forcément entre l'Union européenne en tant que telle, vis-à-vis de la Chine, mais même au sein de l'Union européenne, et c'est un petit peu notre défaut sur les questions commerciales, c'est qu'on montre nos cartes avant de commencer à jouer.
C'est intéressant ce que vous dites, Charles, parce que quand vous parlez des investissements, oui, mais ça va se retourner contre vous, parce que quand vous parlez des investissements chinois, et quand les Chinois débarquent chez chez nous en Europe, vous avez le sentiment qu'on vend nos bijoux de famille.
Or, vos bijoux de famille, c'est ce que vous voulez dire.
Les bijoux de toute la famille, vous avez dit. La question, donc, parliez du port du Pirée, en l'occurrence, c'est vrai que, bon, la Grèce ayant un genou à terre, on est un petit peu fragilisé sur ce point-là. Mais Gabriel Grésillon, nous, ce qu'on veut, à travers un accord, enfin une nouvelle forme de collaboration avec les Chinois à l'OMC, c'est précisément que les Chinois, ils viennent investir chez nous. Donc là, on voit les Chinois, ils ont dit, OK, on est prêt à mettre 6, 10 milliards dans le plan Juncker, etc. Justement. Mais nous, on veut qu'ils viennent nous apporter de l'argent.
On est tellement obnubilé par leur argent qu'on en perd notre sens critique. C'est ça, mon impression. C'est que, si je peux me permettre de revenir à la question initiale, la Chine est-elle une économie de marché? Non, à l'évidence, elle ne l'est pas. C'est un système dans lequel l'intervention de l'État est encore déterminante, ne serait-ce que le système bancaire qui irrigue tout le pays de financement. Donc l'État décide exactement ce qu'il veut financer et ce qu'il veut laisser mourir. Et puis c'est valable pour toutes les industries stratégiques. C'est un pays, enfin je pense que ça c'est un point sur lequel on est d'accord, c'est un pays qui n'est pas une économie de marché. À partir de là, moi, le principe de la réciprocité, je veux bien, mais en fait, on va se faire embarquer dans une négociation. On a toujours voulu des négociations sur la base de la réciprocité avec la Chine, et on n'a jamais réussi. Et on a voulu accéder, par exemple, pour nos banques, pour tout le secteur financier, on a obtenu une ouverture théorique, et en fait, le diable est dans les détails, et on n'a aucune prise sur les petits détails que met en place la Chine et qui en fait nous ferme les portes de ce marché-là. C'est, parlez-en à des banquiers, ils se sont fait avoir dans les grandes largeurs sur le marché chinois en croyant qu'il allait s'ouvrir. Donc moi je pense que s'il y a bien un consensus qui se dégage entre nous là-dessus, c'est que il faut être d'une immense vigilance sur ce dossier parce que s'il y a un domaine dans lequel les Chinois sont excellents, c'est la négociation. Ils ont, alors là pour le coup, c'est un grand cliché de dire une civilisation
qui parce que vous dites s'il y a un domaine où les Chinois sont bons, c'est la négociation. David Bavrez, juste avant, disait s'il y a un domaine où les Américains sont meilleurs que nous tous, c'est la négociation. Nous, on est nuls en négociation, les Européens.
Mais c'est ce que vous disiez tout à l'heure. On abat nos cartes, et en plus, comme on est nous-mêmes divisés, on fait étalage de nos divisions. La force de la Chine, c'est qu'elle avance de façon totalement dissimulée. On ne sait pas ce qu'elle a comme carte. C'est la base de sa stratégie.
C'est le jeu à jouer.
On ne connaît pas trop ses cartes, et elle attend que l'adversaire fasse un mouvement.
Parce qu'elle a une notion du temps. Les Chinois, ils sont pas dans la même notion de temps que nous.
Je sais pas si c'est vraiment à ça que ça renvoie, mais je pense que c'est plutôt une pratique de c'est l'art de la guerre. Enfin, là vraiment, c'est un peu un cliché, mais c'est une réalité. C'est-à-dire, on bouge le moins possible, on pousse l'autre à la faute, tout ça en évitant absolument la confrontation. Dans le monde chinois, il faut éviter la confrontation, d'accord ? On laisse pourrir une situation jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'à récolter un fruit qui est mûr, enfin qui est pourri en l'occurrence. Donc c'est comme ça que ça marche. Donc il faut. Moi, je pense que nous, entités, on est 28 pays, on a un mal fou à se mettre d'accord. Donc on aborde une négociation comme ça par définition en position de faiblesse. On ferait probablement mieux de rester en dehors. Moi, c'est ma conviction.
Et sachant que les Chinois sont prêts à attendre et ils reviennent toujours à la charge jusqu'à ce qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent. Ça, c'est quand même une caractéristique chinoise, non ?
Pour rebondir sur ce qu'il disait Gabriel, la carte, on la connaît, c'est 100 milliards de dollars. Puisque c'est 100 milliards de dollars qui, depuis l'an 2000, chaque année, en gouvernement de bons du Trésor américain, maintenant, c'est terminé. Donc la Chine a une enveloppe de 100 milliards de dollars pour racheter des entreprises partout dans le monde. Donc les Chinois vont venir nous voir et dire « Vous avez besoin de nos investissements, voilà nos conditions ». Et c'est là où on va être dans une situation extrêmement délicate. Et la façon dont historiquement on a traité ça, c'est qu'on a attendu que nos entreprises soient en quasi-faillite. Donc on leur a vendu Peugeot à 8 euros l'action, de manière à ce qu'ils gagnent 100% sur leur investissement. On a refusé d'en ouvrir Framatome en 2000 quand c'était une entreprise fantastique. Et aujourd'hui, on va leur vendre une partie d'Areva pour rien du tout. Donc la vraie question que je pose, moi, dans ces négociations, c'est pourquoi attendons-nous, nous, Européens, d'être à genoux pour parler aux Chinois? C'est les Grecs avec le port du Pirée, en disant « Nous avons désespérément besoin de vous ». Alors que, pourquoi nous n'allons pas les voir au moment où nos industries sont extrêmement florissantes, et en disant « Nous allons faire un joint venture dans des conditions qui vont être équilibrées
». Donc, on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?
Parce que la stratégie chinoise, ça va être d'aller individuellement dans chaque pays, justement, pour avoir cette négociation au cas par cas, et puis essayer de trouver cette majorité qualifiée qui, à un moment, voilà, on lève le pouce, et puis l'Union européenne a sa prise de position.
Alors, ce qu'ils mettent, eux, sur la table, les Chinois, c'est cette initiative de la route et de la ceinture pour revitaliser le continent eurasien en quelque sorte. Alors, la ceinture, c'est la route commerciale terrestre étirant du Xi'an, on dit comme ça ou pas ?
Xi'an,
d'accord, dans le nord-ouest de la Chine, vers l'Asie centrale, l'Iran, l'Irak, la Syrie, la Turquie, avant de traverser le Bosphore pour rejoindre le nord-ouest de l'Europe et de passer par les Pays-Bas, l'Allemagne, pour rejoindre l'Italie. Donc ça, c'est la ceinture. Et puis, il y a la route, c'est la connexion maritime, partant de la Chine et de l'océan Indien, contournant l'Afrique pour rejoindre la ceinture terrestre à Venise. Ça, voilà, ça, c'est ce qui est sur la table. Ça, pour nous, c'est très important.
Non, ça, c'est 50 milliards pour dire à Poutine, tu n'auras jamais Eurasia. C'est ce qui s'est passé au printemps. Et au même moment, vous avez eu 50 milliards de dollars dans la Banque asiatique d'infrastructure pour dire à Obama, le FMI et la Banque mondiale, c'est terminé.
D'accord.
Donc, pour un pays dont on nous dit qu'il est aujourd'hui en faillite, au printemps dernier, ils ont mis 100 milliards de dollars en deux mois sur la table pour dire « Poutine, tu n'auras pas l'Eurasie, Obama, tu n'auras pas l'Asie. »
Et eux, ils investissent dans de l'infrastructure.
Moi, je veux juste dire un truc, je veux réagir sur cette phrase « un pays dont on nous dit qu'il est en faillite ». On dit pas ça. On dit que la Chine a énormément de dollars. Donc, elle peut investir à l'étranger, elle a une puissance de feu en dollars qui est quasiment illimitée. Par contre, ces dollars-là, et ça c'est vraiment un point sur lequel je veux qu'on insiste, ces dollars-là ne peuvent pas trop l'aider à résoudre ses propres problèmes internes. Voilà, elle a des problèmes en renminbi, enfin en yuan, et par contre elle a des dollars. Donc avec ces dollars, elle a un firepower, comme on dit, illimité, et elle arrive chez nous, et elle dit c'est combien vous voulez. Donc nous on est fascinés par ça, et de fait, je veux dire, on en a bien besoin de cet argent. Mais il faut pas, enfin voilà, il y a un effet de grossissement là. Il faut pas non plus se laisser trop impressionner par c'est les réserves de change qu'elle a accumulées par des excédents commerciaux pendant des années. Voilà, mais cette réserve, elle est en train de diminuer là. Le mouvement s'est inversé.
Donc la question qu'on se pose là, pour rappel, c'est l'Europe doit-elle reconnaître à la Chine le statut d'économie de marché ? Que peut y gagner l'Europe ? Que peut y gagner la Chine ? Mais aussi, que peut y perdre l'Europe ? Une étude récente évalue le nombre d'emplois menacés dans l'Union européenne si la Chine était amenée à recevoir ce statut d'économie de marché devant l'OMC à 3,5 millions d'emplois. Ça, c'est le nombre d'emplois menacés, selon une étude. 370 000, rien qu'en France, si donc l'UE accorde à la Chine le statut d'économie de marché. Qu'est-ce qu'il faut en penser, Charles ?
Bah, vous dites des chiffres, évidemment. Je peux penser que il faut pas leur octroyer, parce que vu les chiffres que vous donnez, la réponse c'est non. Il y a probablement une autre étude commanditée par les Chinois qui garantit que la réponse est oui.
Que ça va créer 3,5 millions d'emplois en Europe. Vous en pensez quoi, Gabriel Grésillon ? Vous avez dû écrire là-dessus, notamment.
Malheureusement, c'est pas parce qu'on écrit sur un sujet qu'on a un avis tranché. Moi, j'ai l'impression. Enfin, j'ai parlé avec l'auteur.
Je vous observe depuis le début de l'émission. Tout à l'heure, je vous pose une question, vous m'avez répondu par deux questions, et puis ensuite vous êtes revenu avec une réponse catégorique 3 minutes après en disant non, la Chine n'est pas une économie de marché.
Non, donc, ça c'est sûr.
Est-ce que vous voulez, après que vous avoir posé cette question, on va sur David Bavrez et puis on revient vers vous ? Non, concrètement.
Non, j'ai parlé à l'auteur de cette étude et lui il insiste sur le fait qu'il y a une négociation en fait sur l'investissement et qu'il faut qu'on soit vigilant avec cette stratégie d'investissement des Chinois parce qu'elle peut se retourner contre nous. Je trouve l'argument assez recevable. Par contre, pour ce qui est de dire qu'il y a 1,5 million ou 3 millions d'emplois qui vont disparaître. J'ai eu l'impression qu'il y avait vraiment des exagérations dans la façon dont ils ont quantifié ça. Mais quand même, sur le principe, accorder le statut d'économie de marché à un pays qui demeure à ce point étatique dans son pilotage politico-économique, ça me semble vraiment pas logique.
Donc voilà. Vous êtes contre ?
Oui, je pense qu'à ce stade, ça n'a pas de sens de donner un statut d'économie de marché à la Chine.
David Bavrez ? Vous, si vous
votre
deviez
étude,
voter
le salaire moyen à Shenzhen est maintenant de 500 dollars par mois. Le SMIC au Portugal est à 500 euros. En Espagne, il était 750. Donc, j'ai du mal à... L'argument purement financier, structure de coût, j'ai du mal à croire qu'il y a 3,5 millions d'emplois qui sont en jeu.
D'accord.
Et je dis à nos négociateurs, ne lâchez absolument rien.
Non, mais ne rien lâcher dans la négociation, soit. Mais est-ce que vous pensez qu'il faut accorder à la Chine ce statut d'économie de marché, en ayant des contreparties.
Non, compte tenu
parce que en fait, la réponse de Gabriel, c'était de dire
la Chine n'est pas une économie de marché. Et après, on peut quand même lui accorder...
Et j'ajoute juste un dernier point, c'est que, en fait, ce qu'il faut qu'on sache, on n'en a pas conscience, mais aujourd'hui, les Chinois, ils mettent la pression sur des grosses entreprises européennes qui ont un projet d'usine, par exemple. Je pense à un constructeur auto que je ne citerai pas, qui avait un projet d'usine.
Et on a cité Volkswagen.
Non, mais en l'occurrence, c'est pas ça. D'accord. Et à qui on a fait comprendre que tant qu'il n'y aurait pas d'accord sur ce dossier avec les Européens, il n'aurait pas sa nouvelle usine. Donc il y a vraiment un bras de fer. Les Chinois veulent ce statut. Et nous, il ne faut pas qu'on le leur accorde en cédant à une quelconque forme de pression.
Ils sont en train de faire monter les enchères. Ouais,
bien entendu. Et il faut qu'on soit, pour une fois, capable de parler d'une voix forte et claire et unanime sur un sujet
donc
comme
nous,
celui-là.
Nous, ce qu'on peut obtenir dans l'affaire, quand vous dites, vous, David Bavrez, il ne faut rien lâcher, c'est qu'il faut ouvrir leur marché et pouvoir faire ce qu'on veut là-bas, nous-mêmes.
Absolument. Mais je cite Aristide Briand, les diplomates ne sont dangereux que lorsqu'ils commencent à travailler. Donc, personnellement, ouais. Je n'ai aucune confiance dans vos voisins dans l'immeuble d'en face.
Et... Donc, les voisins dans l'immeuble d'en face, c'est le Conseil européen, la Commission européenne et le Parlement européen.
Et donc, j'aurais tendance, je serais beaucoup plus à l'aise si on me disait qu'un accord n'a pas été trouvé.
D'accord. Mais une fois qu'on a dit ça...
Eh bien, une fois qu'on a dit ça, on laisse les industriels travailler, okay. Entre eux.
Vous, Charles, a priori, on a quand même là un moyen de pression. On dit toujours que les Européens sont nuls en négociation. C'est comme on en discutait la semaine dernière face à Gazprom, avec cette enquête de la DG Concurrence de Gazprom pour Bruxelles. C'est une arme extraordinaire dans ces négociations, dans ces discussions face au Kremlin. Là, avec ce moyen de pression sur le statut de l'économie chinoise au sein de l'OMC, on peut enfin obtenir des choses de la part des Chinois.
Oui, mais non. Oui, mais non. Pourquoi ? Parce que oui, de la part de la Commission, la DG Commerce, qui va arriver en tant que négociateur, donc elle va avoir cette vision-là, mais elle est aussi contrainte par un mandat qui est donné individuellement par chaque État. Et là, c'est la Chine qui va arriver avec ses milliards et ses investissements. Et donc, je ne sais pas si l'effet ciseau va jouer de façon positive pour le côté chinois, qui quand même va peser économiquement, même au niveau des régions, donc ça peut aller quand même assez loin en termes de pression, et puis au contraire, une vision politique de puissance qui, là, sera probablement poussée par la Commission européenne.
Juste pour l'anecdote, messieurs, vous, les experts du monde chinois, et sur votre regard par rapport à nous autres Européens, selon les recherches les plus répandues sur Baidu, c'est comme ça qu'on dit, le Google chinois, en règle générale, les recherches qui sont faites sur ces sites permettent d'en savoir long sur les préjugés de certains pays. Pour les Chinois, les Français seraient des arnaqueurs de touristes chinois. C'est comme ça qu'ils nous voient
Ça s'est un peu amélioré.
Ça s'est un petit peu amélioré.
Il y a deux ans, c'était carrément un sujet politique. Laurent Fabius, c'était quasiment son premier sujet quand il venait en Chine. C'était rassurer ses homologues sur le fait que les touristes chinois seraient bien traités. Il y avait même eu des agressions, mais après, c'était complètement monté en épingle dans les médias chinois. Ça s'est quand même un peu calmé.
Donc, si on revient sur les différentes questions de cette émission, que pèse l'Europe aux yeux des Chinois ? Pas grand-chose, on est d'accord ?
Symboliquement encore.
Symboliquement, si, quand même. Si. Donc c'est quand même le musée. A priori, là, ils vont gagner beaucoup d'argent. Ils vont venir chez nous pour le dépenser, pour venir regarder un petit peu le musée du monde.
Oui, puis ils ont quand même conscience. Voilà, la question de la qualité de vie, c'est quelque chose qui était inexistant en Chine il y a 10 ans et qui est devenu central. Donc dans ce cadre-là, on n'est pas complètement perdu, nous, les Européens.
En tout cas, crise de 2008, la Chine, grande gagnante, et l'Europe, a priori, grande perdante. On est d'accord sur ce constat-là. Non, pas tellement
pas
côté
pas pour moi, mais
Gabriel.
La
seule institution qui se soit vraiment réformée depuis 2008, la seule, c'est le Vatican.
Et l'Europe doit-elle, enfin surtout ces toutes dernières années, peut-être pas depuis 2008, et l'Europe doit-elle reconnaître à la Chine le statut d'économie de marché ? Ici, c'est non. Ici, il ne faut rien lâcher. Et ici...
C'est pas gagné.
C'est pas gagné. Merci, messieurs. On se retrouve juste après une courte page de publicité pour la revue de presse européenne. À tout de suite.
BFM Business. 500 millions d'Européens, l'émission qui va voir ailleurs. BFM Business, 500 millions d'Européens, la revue de presse.
Voilà, la revue de presse, nous sommes toujours ici en studio à Bruxelles avec David Bavrez, auteur de Génération Tonique chez plomb. L'Occident est complètement à l'ouest. Gabriel Grésillon, Chine, le grand bond dans le brouillard chez Stock. Et Charles de Marcilly de la Fondation Robert Schuman qui est en train d'écrire son livre. Bonjour Pauline Armandet.
Bonjour Yann-Anthony.
Alors les touristes chinois, revue de presse spéciale Chine. D'ailleurs un petit salut à Mathieu Jolivet qui présente Chine Hebdo ici sur BFM Business. On ne lui fait pas du tout de concurrence, hein. On parle d'Europe. Les touristes chinois qui atterrissent à Liège vont partout, sauf à Liège, la principauté liégeoise ici en Belgique. Mais une brochure devrait y remédier.
Oui, voilà. Alors, pour séduire les Chinois, la ville de Liège a en effet créé un guide bilingue en anglais et mandarin sur les charmes de Liège. Alors, le guide a déjà été publié en 100 000 exemplaires et selon le quotidien belge, La Libre Belgique, eh bien, son titre est révélateur, Liège, The Trendy Shopping Destination. Et c'est terrible à dire, mais pour attirer les visiteurs de l'Empire du Milieu, on compte plus sur les bijoux, les fringues, le chocolat et la bière que sur le grand Curtius ou le Toré, qui sont en fait des symboles culturels de la ville de Liège.
Voilà, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que les touristes chinois ont un regard assez particulier hein, de ce qu'il faut voir quand ils viennent ici en Europe. Alors évidemment, il y a la Tour Eiffel ou d'autres monuments, mais il y a également la ville de naissance de Karl Marx ou encore Luxembourg, ville. Pauline, les États démocratiques ne veulent pas apparemment des Jeux Olympiques en Chine.
En 2022, les JO d'hiver se dérouleront en Chine, hein, comme vous le savez, mais c'est une honte pour le quotidien libéral autrichien Die Presse. Alors, je cite, un pays doit manifestement remplir deux critères pour obtenir l'organisation des Jeux, selon le quotidien. Il doit tout d'abord s'agir d'une dictature ou d'un régime autoritaire. Et deuxièmement, il est préférable que ce pays se montre tout aussi impitoyable du côté de l'environnement qu'il ne l'est vis-à-vis de ses propres sujets.
David Bavrez.
Ben, c'est quand même extraordinaire. Pékin, seule ville au monde à avoir gagné les Jeux Olympiques d'hiver et d'été à la fois. Et des gens veulent me faire croire que les Chinois ne peuvent pas être inventifs.
Le premier autocar autonome testé en Chine par Yutong, Pauline. Je crois que c'est Emmanuel Macron qui avait été dans notre émission il y a quelques mois, qui sera intéressé par cette information. La Chine fait plus fort que l'Europe.
Selon le magazine Futura Science, eh bien, le fabricant d'autocars chinois Yutong se flatte d'avoir mis au point le premier autocar autonome du monde. Alors, pour circuler sans l'aide d'un conducteur, l'autocar est équipé de deux caméras, de quatre télédétecteurs et d'un système de navigation intégré. L'autocar chinois a ainsi circulé sur la voie publique sur un trajet de 33 km. Alors, ce concept, il existe déjà aux États-Unis et même dans quelques pays européens comme l'Allemagne, l'Espagne ou encore le Royaume-Uni, mais cela n'existe pas encore en France.
Alors, cette émission s'appelle 500 millions d'Européens, on pourrait l'appeler 1 milliard 300 millions de Chinois. Pour terminer cette revue de presse, on va déroger à la règle. Vous êtes allé regarder du côté de la presse chinoise, ben, chapeau, avec une information d'un journal chinois, des RTT, des toilettes pour relancer l'économie chinoise.
Pour faire face aux difficultés économiques en Chine, le Conseil des affaires de l'État a publié cet été un plan d'action de 26 mesures. Alors 26 mesures parmi lesquelles il propose par exemple plus de RTT pour les travailleurs le vendredi, ou encore une mesure assez originale qui concerne les toilettes. Et selon le journal de Hong Kong South China Morning Post, je cite, les autorités projettent de rénover 57 000 toilettes dans les attractions touristiques du pays au cours des trois prochaines années. En effet, hein, le mauvais état des infrastructures actuelles ferait obstacle à l'attrait touristique du pays.
Voilà, c'est ce qu'on disait. Hein. Les Chinois, ils investissent dans l'infrastructure. Donc c'est la ceinture et les toilettes.
Et dans la RTT, ce qui prouve que c'est quand même la France qui crée les tendances.
Martine Aubry qui visiblement inspire les Chinois, David Bavrez.
Ben, quand ils ont fini avec les toilettes en Chine, ils pourront s'attaquer aux toilettes françaises puisque c'est un des premiers reproches des touristes chinois quand ils viennent en France.
Voilà, et d'ailleurs, les Belges qui disent la toilette et pas les toilettes, et à chaque fois qu'un Français reprend un Belge en disant mais on dit pas la toilette, on dit les toilettes, le Belge dit oui, enfin c'est normal que vous disiez les toilettes parce qu'à chaque fois il faut en faire plusieurs pour en trouver une propre à Paris. Voilà, on parlait du tourisme. Merci beaucoup David Bavrez, auteur de Génération Tonique, d'avoir été avec nous. Merci Gabriel Grésillon, auteur de La Chine, le grand bond dans le brouillard. Merci à vous, Charles de Marcilly de la Fondation Robert Schuman. Vous viendrez la prochaine fois avec votre ouvrage. Merci, Pauline Armandet, pour votre revue de presse. Voilà, c'est la fin de ce nouveau numéro de 500 millions d'Européens. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Bonne fin de week-end à tous, à l'écoute de BFM Business.